Est-ce que vous diriez que depuis 30 ans dans le monde, il y a un dérèglement climatique? Oui ou non?
On est quand même le pays qui a accueilli donc des milliers de chercheurs qui sont venus nous dire au monde entier qu'il y a un changement climatique qui s'accélère et qu'on a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire? Et vous, vous êtes en train de prêcher le climato-scepticisme? Vous mettez en cause
des... Vous ne voyez pas que vous êtes religieuse, là?
Je m'aperçois, et à chaque fois qu'on monte un débat là-dessus, de la réaction dont vous venez de faire preuve ici, qui, je le répète, est suspecte.
Cette émission est énorme, ça va devenir un totem, j'adore.
Elle est ni énorme ni pas énorme, mais ça serait bien qu'on retrouve une certaine sérénité.
C'est formidable.
Il n'y a pas de discussion sur vous êtes des climato-sceptiques. Et ça, pardonnez-moi, journalistiquement, scientifiquement, ça me choque.
C'est un problème sémantique de départ. Le mot changement peut mettre tout le monde d'accord. C'est sûr qu'il se passe des choses. Bon.
Tout le monde est écolo, tout le monde. Hein. Nous avons gagné la bataille culturelle.
Mais est-ce bien sûr ce que dit la candidate verte Karima Delli lundi matin sur la chaîne d'info en continu CNews? Dans une émission qui entend débattre, je cite, des grands enjeux de l'actualité, la première question posée était celle du refroidissement climatique, avec, précisons-le, des guillemets et un point d'interrogation. Autour de la table, l'animateur Pascal Praud, le journaliste scientifique Michel Chevalet, le publicitaire Jacques Séguéla, le journaliste Gérald Leclerc, la directrice de Causeur Elisabeth Lévy, le médecin Bernard Debré, le sondeur Frédéric Dabi et une invitée, Claire Nouvian, fondatrice de l'association écologiste Bloom et candidate sur la liste de Raphaël Glucksmann, classe publique, parti socialiste. Comme on l'a entendu, l'échange a tout de suite tourné au clash. Un guet-apens climato-sceptique, comme le dit Claire Nouvian qui a lancé une pétition adressée au CSA jeudi. La preuve, au contraire, de l'intolérance et de l'arrogance des défenseurs du climat. Un bon exemple de la fragilité du consensus médiatique sur les questions environnementales. Nous allons poser ces questions à nos deux invités. Sylvestre Huet, bonjour.
Bonjour.
Journaliste spécialisé en sciences, vous avez longtemps œuvré à Libération. Actuellement, vous êtes indépendant, blogueur avec Science au Carré pour le site web du Monde. Et puis essayiste, on peut citer votre dernier ouvrage, Les deux sous de la cacophonie climatique, paru aux éditions La Ville Brûle. Et puis en face de vous, Belir Nabli, bonjour.
Bonjour.
Chercheur à l'IRIS, directeur de la publication du site collectif Chronique, qui rassemble des chercheurs, des artistes et des essayistes. Ancien éditorialiste de L'Heure des Pros, cette émission sur CNews.
C'est un grand mot.
Vous avez été également l'auteur de La République et du Soupçon, c'est le dernier ouvrage qu'on peut citer qui a paru aux éditions du Cerf. Et je précise qu'on ne refait pas le match ici, pas du tout, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé. Question toute simple pour commencer, qu'est-ce que vous avez pensé l'un et l'autre de cette séquence, Sylvestre Huet?
Cette séquence repose une nouvelle fois la question de la responsabilité collective et individuelle des journalistes, des animateurs d'émissions de radio et de télévision sur tous les sujets dont les Français... sur lesquels les Français ont besoin de savoir scientifique. Lorsque Pro parle du climat, faisons une comparaison simple. Si un journaliste économique se mettait à vous dire « Ah, ce matin, j'ai constaté que mon compte bancaire est dans le rouge, donc cela veut dire que tous les comptes bancaires des Français sont dans le rouge. » Vous vous diriez « Il n'est pas très très futé, ce gars-là. » Or, Pro nous dit, il a fait froid quelque part ce matin en France, donc cela veut dire que le réchauffement du climat sur l'ensemble de la Terre, observé par les scientifiques, n'existe pas. On se dit aussi, il n'est pas très futé ce gars-là. Pour être journaliste, il faut un niveau minimum de culture générale.
Mais est-ce qu'il ne le fait pas exprès,
d'intelligence, on peut évidemment se poser la question, est-ce que Pascal Praud pense vraiment ce qu'il dit ou est-ce qu'il est en train de faire ce qu'il faut pour faire du buzz et de l'audience et donc du commerce et donc de constater encore une fois que le commerce de l'information traitée comme une marchandise comme les autres n'est pas compatible avec l'exercice par les journalistes de leur métier en responsabilité sociale, c'est-à-dire en considérant que l'information, c'est un des piliers de la démocratie.
Le buzz, c'est un aspect important de la question, hein, Belir Nabli, puisque on a vu aussi cette semaine, après cette émission, un premier montage de moments de cette émission qui a été largement partagé et commenté sur les réseaux sociaux, au point que le nom de Pascal Praud figurait parmi les sujets les plus discutés sur Twitter dans la journée. Puis un deuxième montage critiquant le premier, et le CSA a annoncé avoir reçu plus d'une centaine de plaintes. Donc, ça a marché de ce point de vue-là.
Non seulement ça a marché, mais c'était le but recherché. C'est en cela que ni l'animateur, ni l'émission, ni la chaîne ne sont naïfs. Ils sont dans une démarche cynique qu'on pourrait résumer à la quête de l'audience dans un système médiatique hyper compétitif, en tout cas hyper concurrentiel, notamment entre les trois chaînes d'infos continues, mais pas seulement. Et dans cet univers hyper concurrentiel, tous les coups sont permis et malheureusement, effectivement, la logique commerciale prime sur toute prise en compte des enjeux démocratiques qu'il y a derrière. Parce que, naturellement, il serait facile de sourire, voire de se moquer de ce type de séquence. Malheureusement, elle nous engage tous. Elle nous engage tous, notamment parce que les acteurs médiatiques en question sont conscients de ce qu'ils font. Il y a malgré tout une ligne éditoriale, c'est-à-dire que derrière le cynisme commercial, il y a malgré tout une ligne idéologique. On est dans la bataille culturelle. Derrière le climato-scepticisme exprimé en l'espèce, il y a plus largement une ligne conservatrice de remise en cause d'un certain nombre d'éléments, notamment au nom de l'idée suivant laquelle toutes les opinions se valent. Il n'y a pas ni de vérité scientifique qui puisse ne pas être discutée, ni de valeur universelle qui ne puisse être remise en cause.
C'est exactement ce que dit Pascal Praud, hein. Et d'ailleurs, on a remis l'extrait de cette séquence dans le petit montage que nous avons fait. C'est ça, Sylvestre Huet, la question au fond, quand Pascal Praud dit « toute vérité est contestable » et sur le climat, c'est un sujet particulièrement sensible, on ne peut pas contester ce qui est énoncé comme une vérité indiscutable, les climato-sceptiques ne peuvent plus s'exprimer. On entend réellement ce dont parle Béliard Nabi, c'est-à-dire cette ligne idéologique. Est-ce qu'il a raison ou est-ce que c'est du relativisme culturel? Est-ce que c'est une opinion aujourd'hui qu'on peut exprimer sur le climat?
Toutes les opinions sont possibles. La question qui est posée, c'est dès lors que les sociétés ont à relever des défis économiques, sociaux, politiques, géopolitiques, de paix dans le monde, où la connaissance, le savoir sont indispensables pour prendre des bonnes décisions. Dès lors qu'on est dans cette situation, toute utilisation des moyens d'information qui aboutit à jouer non pas la carte du savoir, qui est une carte qui réclame des efforts de tout le monde, des citoyens comme des journalistes, mais la carte de l'ignorance, qui est une carte beaucoup plus facile à jouer et qui rapporte beaucoup plus d'argent pour les chaînes d'information, par exemple, la question qu'on se pose, nécessairement, c'est « et pour quel résultat ?» Le problème, c'est que jouer la carte de l'ignorance, c'est facile et c'est pas cher et ça peut rapporter gros. En revanche, au niveau de ses conséquences sociales, ça va coûter très cher. Si on affronte le défi climatique en jouant la carte de l'ignorance, la probabilité pour que nous prenions les bonnes décisions pour le relever, elle est zéro.
Béliard Nabi.
Alors, je suis naturellement d'accord, mais j'ajouterais un autre élément. Ce n'est pas malheureusement qu'une question d'ignorance. C'est aussi une question de relation à l'émotion. Ce à quoi on est confronté, c'est le primat de l'émotion, y compris au-delà du système médiatique ou de la sphère médiatique. C'est une donnée qui pèse beaucoup trop lourd aujourd'hui dans l'espace politique lui-même. C'est ce qui explique notamment d'autres séquences, notamment la séquence où un ministre de l'Intérieur, M. Castaner, pour ne pas le citer, finalement s'engage, en tout cas affirme des faits qui n'ont pas eu lieu. Alors même que la problématique des fake news, puisque ça rejoint aussi notre discussion, la problématique des fake news, est l'un des mots qui sape finalement les fondements du débat démocratique, c'est-à-dire contradictoire et fondé sur des faits. Et cette donnée, c'est en cela que, au-delà de l'émission, au-delà de la séquence, on est là au cœur de l'un des mots de notre démocratie d'opinion, une démocratie où toutes les opinions se valent, encore une fois, et où des responsables, qu'ils soient médiatiques ou publics, politique s'engage au nom finalement de ce que Trump a appelé l'effet alternatif, voire s'engage au nom d'une quête ou bien de l'audience ou bien de l'émotion.
Oui, mais ce qui me perturbe dans ce que vous dites, Béliard Nabi, c'est que vous dites toutes les opinions se valent. Et c'est l'un des mots de notre société. Mais la question que je repose à Sylvestre Huet, c'est est-ce qu'on est là dans une opinion? Est-ce que c'est affaire de croyance? C'est ce que Elisabeth Lévy, Pascal Praud et ceux qui étaient autour de la table ont reproché à Claire Nouvian. Ils l'ont accusée d'être religieuse, de faire montre de catéchisme. Claire Nouvian leur a répondu dans Les Inrecuptibles : j'ai un rapport de connaissance au monde, eux ont un rapport de croyance au monde. Alors est-ce que c'est croyance contre croyance, cette histoire de réchauffement climatique, ou est-ce que c'est histoire de fait contre les opinions ?
Dans quelle mesure peut-on faire confiance à des institutions ou des collectifs de scientifiques qui expliquent à la société tout entière ce qu'ils ont compris d'un sujet, en l'occurrence le climat. Évidemment, la question qui est posée là, c'est une question de connaissance. Il faut savoir dans quel état est la science sur ce sujet. Il se trouve que, devant la montée de la question climatique, les gouvernements ont, en 1988, ça ne date pas d'hier, demandé à la communauté scientifique mondiale concernée de mettre au clair ses connaissances dans des rapports d'expertise qui expliquent aux gouvernements et aux citoyens « voilà ce que les scientifiques savent, voilà ce qu'ils savent moins bien, voilà ce sur quoi ils sont encore incapables de répondre aux questions posées en ce qui concerne le changement climatique ». Et il y a donc un certain nombre de connaissances clairement identifiés, mesurés, quantifiés, y compris dans leur incertitude, qui sont exposés dans les rapports du GIEC. À partir de là, tout journaliste qui tient un discours qui nie ses résultats est dans une situation où il ment ou est incompétent, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas cette expertise et donc il raconte n'importe quoi dessus.
Ou il joue, comme le dit Béliard Zabli, sur les émotions, le doute, délibérément.
Sur l'ignorance des gens, mais pas la sienne, pour vendre quelque chose qui est de l'ordre du mensonge, et c'est efficace. Rappelez-vous, en 2010, énorme campagne climato-sceptique en France, menée notamment par Claude Allègre et Vincent Courtillot, relayée par des moyens d'information puissants, France 2, David Pujadas, par exemple. Le résultat a été mesuré par des sociologues dans les enquêtes qui, chaque année, demandent aux Français leur opinion sur le changement climatique. Est-ce que c'est une certitude pour les scientifiques, ou est-ce que c'est un sujet sur lequel il y a débat et qui ne sont pas tous d'accord ? Le pic sur les 20 dernières années de doute des Français sur le sujet, il est pile poil en 2010, au moment de cette campagne climato-sceptique. Et après, on se demande pourquoi la France n'a toujours pas fait ce qu'il faut en termes d'isolation des bâtiments, en termes d'arrêter avec le pétrole sur les routes, etc. Bah, ça a un rapport.
Béliard Nabli.
Oui, encore une fois, ça s'inscrit effectivement dans un contexte global, notamment celui de la confiance. Et la confiance vis-à-vis de la connaissance, ou du moins vis-à-vis de ceux qui produisent la connaissance. Et malheureusement, les institutions, y compris universitaires ou chercheurs, n'échappent pas à la défiance des citoyens à l'égard de la parole experte ou la parole institutionnelle. Et là, on est encore une fois au cœur de l'un des mots de notre système démocratique. On est dans une démocratie de la défiance, pour reprendre l'expression de Pierre Crozon-Vallon. Et cette démocratie de la défiance, elle n'est pas subie seulement par les acteurs politiques. Les acteurs de la connaissance n'échappent pas à cette défiance-là. Et c'est peut-être cette situation qui a du mal à gérer le système médiatique, y compris lorsqu'il veut bien faire, lorsqu'un journaliste veut bien faire son travail, eh bien, il est notamment confronté à cette question de comment je vais nourrir un débat contradictoire et équilibré, y compris lorsque des données sont clairement établies.
On se pose sans arrêt effectivement la question, et sans doute les journalistes cette semaine se la sont-ils posés après le rapport de l'IPBES sur l'état de la biodiversité. Alors c'est assez vertigineux de voir l'écart entre la séquence qui a servi de point de départ pour cette fabrique médiatique du jour et les unanimes des journaux cette semaine sur le rapport alarmant du groupe d'experts donc de l'ONU sur la biodiversité, qui pointe d'ailleurs le réchauffement climatique parmi les causes de la disparition des espèces. Sylvestre Huet, qu'est-ce que cet écart nous dit de la façon dont les médias traitent du climat et de l'environnement? Est-ce qu'on ne peut pas dire justement que le débat, comme le disait Béliard Nabli, est toujours mal posé de toute façon?
Il n'est pas toujours mal posé. Il y a des bonnes exceptions, j'espère. Mais en tout cas, sur ce sujet de la sixième extinction de masse, hein, avec le rapport sur la biodiversité, on voit bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand il y a la sortie d'un tel rapport, avec un embargo qui a fait que Tout le monde était au courant au même moment. Donc tous les journaux se disent, toutes les directions de journaux se disent, si je mets pas ça à la une, comme les autres vont le faire, je vais avoir l'air d'un imbécile. Donc tout le monde, ce qui est bien d'ailleurs, va ce jour-là faire sa une sur le rapport de l'IPBES.
Mais avec des nuances, excusez-moi de vous interrompre, avec des nuances, avec certains journaux qui disaient c'est foutu, et puis d'autres journaux qui ont plutôt choisi d'opter sur, non, on peut encore agir. Donc,
oui.
C'est la seule alternative qu'on a pu lire. Hein.
C'est vrai. Et ce qui est vrai aussi, et peut-être surtout, c'est que j'ai lu très et entendu très peu de choses sur que faire. Face au constat, il est vrai, alarmant des scientifiques. C'était un peu étonnant d'entendre quand même le président de la République dire que c'était la première fois qu'il y avait un avis scientifique sur le sujet.
C'est pas vrai?
Bien sûr que non, c'est pas vrai. Ça fait des années et des années que les biologistes alertent sur cette sixième extinction. J'ai dirigé il y a 3 ans un livre dont le titre était « La sixième extinction ». Donc c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. Évidemment, la question qui est posée, c'est que, un peu comme pour le problème du changement climatique, s'attaquer réellement à la sixième extinction, ça veut dire se poser des questions très difficiles à résoudre sur comment les hommes produisent leurs moyens de vie, qu'est-ce qu'ils consomment, parce que aujourd'hui nous avons un impact par notre nombre simplement sur la planète, sur son climat et sur sa biosphère, qui est tellement fort qu'il ne peut pas y avoir de solution cosmétique.
Et c'est là qu'on a peut-être une des explications de ce consensus factice ou fragile des médias par rapport au climat ou à l'environnement. C'est peut-être que certains se disent, on ne veut pas ennuyer, on ne veut pas, parce qu'on l'a fait pendant longtemps, sombrer dans le catastrophisme ou dans le militantisme de certains journalistes de l'environnement et risquer que ce soit contre-productif, Béliard Nabli.
Oui, vous avez raison. Et le tout dans un contexte politique quand même nouveau, en ce sens où la question environnementale en général et du réchauffement climatique ou du péril climatique, pour reprendre l'expression de certains, cette question est devenue centrale dans le débat, non plus d'idées, mais dans le débat politique. On assiste à une reconfiguration des rapports de force politique, notamment à l'égard ou par rapport à cette question-là, qui est devenue vraiment centrale en ce sens où elle participe à la reconfiguration à la fois des débats internes aux partis politiques et des rapports entre les partis politiques. Il s'agit là d'une nouvelle donne extrêmement intéressante en ce sens où les partis politiques, en même temps, ne peuvent pas dire exactement la même chose parce qu'ils sont dans une compétition de l'offre politique. Donc, s'ils partagent seulement un constat, on ne pourra pas faire notre choix sur un constat commun. Il va falloir qu'ils se positionnent par rapport aux solutions. Et là, c'est en cela qu'on attend peut-être plus les partis politiques.
Et peut-être que du coup les médias sont tiraillés entre les pages planète et les pages économie en entreprise encore.
Oui, bien sûr. Les médias sont parfois, on connaît bien cette schizophrénie où dans les pages économie on se réjouit du fait que Airbus a de nouvelles commandes d'avions, ça va faire de l'emploi à Toulouse, et puis on tourne la page et on tombe sur les pages planète ou environnement où on dit le transport aérien est une catastrophe pour le climat. Et c'est là que la question de la responsabilité sociale des journalistes et des moyens d'information est de nouveau posée. C'est-à-dire que tous ces sujets sont réellement difficiles. Les solutions à trouver mettent au défi les sociétés de mettre en cause toute une série de choses à laquelle la majorité des gens croient, sur le commerce, sur la répartition des richesses, etc. Et là, on voit bien que si les moyens d'information ne prennent pas tous les moyens nécessaires pour élever le niveau du débat politique, alors on mettra en difficulté les sociétés et la démocratie.
Et c'est intéressant que ce soit un journaliste encore qui fasse la une de pas mal de journaux cette semaine avec une enquête qui vient du New York Times. C'est Nathaniel Rich, journaliste au New York Times. Il sera d'ailleurs l'invité des matins, mercredi prochain, pour la parution en français de son enquête « Perdre la Terre » qui révèle que les élites scientifiques et politiques américaines savaient dès 1979 ce qui allait se passer et n'ont pas agi. Mais je n'ouvre pas le débat, parce que Sylvestre Huet, vous pensez que c'est une réécriture de l'histoire. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive au terme de cette fabrique médiatique et il est 8h sur France Culture. On se retrouve après le journal.